Nous avons vu la dernière fois comment nous devons mener le combat de la foi en gardant les yeux fixés sur Jésus en tant qu'il est allé jusqu'au bout de la confiance en son Père pour pouvoir nous entraîner sur ce chemin. Et donc, pour nous, avoir confiance en Dieu signifie recevoir du Christ la grâce donc de nous en remettre, de nous remettre pleinement entre les mains de notre Père du ciel, comme il l'a fait lui-même sur la croix quand il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc, de cela, nous tirons deux choses. D'abord, que la vraie confiance n'est pas à notre mesure, n'est pas à mesure humaine. Elle est un don de Dieu, la confiance filiale. Que c'est Jésus qui l'a conduit à sa perfection. Et que donc, nous pouvons lui demander, comme je l'avais dit, lui demander, à l'exemple des apôtres, d'augmenter notre foi. Reconnaître humblement devant Jésus que nous manquons de confiance en Dieu, ça ne peut lui être qu'agréable, c'est un acte d'humilité. Et aussi, de ce que nous avons vu la dernière fois, nous pouvons conclure que la confiance est inséparable du Christ, mais du Christ dans le mystère de sa passion. En fait, avoir confiance en Dieu signifie commencer à suivre Jésus, à suivre Jésus dans son chemin, dans son œuvre de rédemption. Et nous comprenons cela davantage encore si nous réalisons que notre confiance en Dieu, elle s'exerce sur cette terre dans un monde marqué par le mal. Et donc nous suivons Jésus dans sa confiance filiale envers le Père pour participer à sa victoire sur le mal. C'est bien ce que saint Jean nous laisse comprendre quand il dit « Et telle est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. » Et donc, il s'agit d'un véritable combat à la foi. Parce qu'il s'agit en définitive de participer à la victoire du Christ. Je vous dis ça en pensant à des personnes qui sont naturellement, je dirais, optimistes et qui ont une foi, je dirais, spontanée en Dieu, au sens où ils ont facilement confiance que les choses vont s'arranger, la grâce de Dieu aidant. Mais ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'est le combat de la foi et ils ne vont pas nécessairement dans les profondeurs de ce combat. Il peut y avoir comme ça une foi relativement, disons, superficielle. Mais je dirais qu'elle se reconnaît au fait que nous avons confiance que Dieu, nous avons confiance en Dieu au sens où nous avons confiance que Dieu peut nous aider. Et si on y réfléchit bien, nous sommes souvent tentés de vivre cette confiance au sens que d'en appeler à Dieu pour qu'il nous aide dans nos projets à nous. Je vous cite une petite remarque de Benoît XVI dans une homélie qu'il a faite récemment. Le risque de chaque croyant est celui de pratiquer une religiosité non authentique ne pas chercher la réponse aux attentes les plus profondes du cœur en Dieu, d'utiliser au contraire Dieu comme s'il était au service de nos désirs et de nos projets. Pensez à toutes les personnes qui prient Dieu pour trouver leur conjoint, éventuellement qui vont à la messe tous les jours, une fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont obtenu de Dieu ce qu'ils voulaient, bien on sent que la ferveur est moindre. Et ces mêmes personnes qui prient Dieu pour pouvoir se marier, souvent, ne respectent pas non plus les commandements de Dieu, avant le mariage et après. Ben, ça, c'est pas la vraie confiance filiale. C'est mettre Dieu au service de nos projets. Mais c'est pas ce que Jésus a vécu dans sa passion, évidemment. Je dis ça avec un peu de sourire, mais c'est évident que c'est une tentation très fréquente de voir Dieu en fonction de notre projet de vie que nous menons nous-mêmes, au lieu de comprendre que la foi que le Christ nous procure, consiste à remettre notre vie tout entière dans les mains de Dieu. Comment pouvons-nous aller plus loin dans notre vie de foi en la vivant pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un combat qui doit nous permettre d'être victorieux par le Christ, des difficultés, des épreuves et du mal lui-même que nous rencontrons dans le monde. La première chose, c'est donc de saisir que avoir confiance en Dieu et obéir à Dieu, ça va ensemble. Notre confiance, c'est une confiance d'enfant vis-à-vis de notre Père. Donc, j'ai confiance en celui qui dirige ma vie. Et cette confiance en celui qui est mon vrai Père du ciel, elle va prendre deux formes essentiellement, me semble-t-il, dans cette remise de nous-mêmes à Dieu. La première, c'est que nous nous en remettons à sa parole. Nous gardons ses commandements, nous laissons guider par ses commandements. Il y a dans la foi, je vous le rappelle, deux aspects, j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en sa parole. J'ai confiance en sa parole signifie je la garde et je l'observe. Mais il y a aussi un autre aspect de cette obéissance qui exprime notre confiance, qui est, je ne sais pas si on doit dire le prolongement, mais en tout cas qui est inséparable de la confiance, c'est le fait aussi de pouvoir accepter les événements de notre vie, parce que c'est Dieu aussi qui nous dirige à travers les événements de notre vie. Donc, je me soumets à ces commandements, mais aussi je me soumets aux choses, d'un certain sens. Sens où le Siratsi dit « Tout ce qui t'arrive, accepte-le. » Ici, nous rentrons précisément dans la confiance telle que Jésus l'a vécue, c'est-à-dire dans l'abandon. Je dirais aussi que nous rentrons dans une confiance qui écoute, qui se laisse instruire, qui se laisse guider, Alors Dieu nous parle à la fois à travers sa parole, les saintes écritures, ses commandements, mais il nous parle aussi à travers les événements. Accepter ce qui nous arrive, c'est rester à l'écoute de Dieu au travers de ce qui nous arrive. Comme je le dirai par la suite, il ne s'agit pas de se résigner au mal, mais il s'agit de le traverser avec Jésus. En fait, nous avons ce choix ou de buter sur l'obstacle en laissant le doute entamer notre confiance, ou alors nous gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est allé jusqu'au bout de la confiance et de l'abandon, et à ce moment-là, nous arrivons à vaincre par la foi, avec lui et par lui. Mais comment vivre cet exercice de la foi, donc en tant qu'elle est obéissante et qu'elle est une participation au combat de la rédemption? Nous contemplons Jésus devant sa passion. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Si nous regardons dans l'Évangile, Jésus ne se situe pas devant les hommes, devant leurs intrigues, devant leurs malices, mais il se situe toujours devant le Père. Là où nous ne verrions nous-mêmes spontanément que lâcheté, trahison, haine, Jésus voit la coupe que le Père lui présente. Autrement dit, il ne s'arrête pas à l'humain. Et il voit par-delà les choses, la main de son Père. Et c'est de cette manière-là qu'il peut aller jusqu'au bout de l'obéissance. Je ne peux accepter ce qui m'arrive que si je reçois ce qui m'arrive de la main de Dieu. Je ne peux surmonter que ce que j'accepte. Je ne peux accepter que ce que je reçois de Dieu, parce qu'à ce moment-là, mon acceptation se fonde vraiment sur ma confiance qu'en définitive, c'est Dieu qui tient toutes choses dans sa main, que rien n'échappe à la main du Père. Comme dit Jésus, le Père est plus fort, plus puissant que tout. Personne ne peut s'arracher de sa main. Donc, le premier exercice de la foi en tant qu'elle prend la forme de l'abandon dans le concret des épreuves de la vie, c'est de recevoir toute chose de la main de Dieu, pour reprendre une expression du Concile. Pensons à toute l'énergie que nous dépensons mentalement, ne serait-ce que mentalement, à nous battre intérieurement avec des personnes. Ne serait-ce quand nous pensons que nous avons raison vis-à-vis d'elle, c'est nous qui avons raison. Et si, donc, quand nous n'avons pas l'occasion de discuter avec elle, bien, nous continuons à discuter intérieurement. Donc, nous dépensons une énergie, je dirais, démesurée à ce qu'on peut appeler la bataille d'hommes, alors qu'en réalité, le seul chemin par lequel nous puissions sortir de, je dirais, d'un combat stérile, c'est de nous remettre devant notre Père du ciel. Ici, j'aime rappeler ce que le petit Van nous a enseigné à travers ses dialogues avec l'enfant Jésus, qui étant jeune novice, il est adolescent, il s'est retrouvé avec un père des novices rédemptoristes qui était particulièrement sévère, plus que sévère, qui l'a humilié. Il était d'un milieu très pauvre, il aurait aimé être prêtre, finalement on ne l'a pas accepté pour la préparation au sacerdoce, et il se sentait, il devait l'être réellement, bien humilié. Et un jour qu'il était particulièrement en colère, il a reçu de l'enfant Jésus une lumière, et là, l'image est très belle. Le Seigneur lui faisait comprendre qu'il était comme un chien. Quand on jette une pierre sur un chien, il s'attaque à la pierre au lieu de regarder celui qui a jeté la pierre. Pourtant, si nous ne regardons pas celui qui a jeté la pierre, ou qui a permis que la pierre soit jetée, qui sait ce qu'il permet, ou bien nous nous enfonçons dans une lutte qui n'a aucune issue parce qu'elle n'est pas fondée sur la foi en Dieu. Nous sommes en dehors du champ de la foi. Et nous nous battons humainement contre le mal, c'est-à-dire d'une manière stérile. Nous passons à côté du combat de la foi parce que nous cessons de regarder Jésus dans son abandon au Père et de l'imiter dans son abandon au Père. Nous ne rentrons pas dans sa prière: Père, c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Nous sommes bien d'accord, tout ce qui t'arrive, accepte-le, donc signifie d'aucune manière tomber dans une forme de fatalisme. Nous l'acceptons parce que nous avons confiance que Dieu sait ce qu'il permet, mais nous l'acceptons pour le dépasser. Nous l'acceptons pour le surmonter. Et donc nous ne baissons aucunement les bras. Mais nous croyons en une possible participation à l'œuvre de la rédemption, moyennant notre acceptation. Très chers frères, dit saint Pierre, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Mais dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Ne pas vouloir passer par le chemin étroit et resserré de l'acceptation, dans la confiance en Dieu et en sa toute-puissance, c'est se désarmer soi-même, en tout cas s'empêcher de saisir l'arme de la croix, qui est la seule qui puisse nous permettre de vaincre réellement le mal. C'est-à-dire de vaincre le mal à sa racine. Autrement dit, d'être victorieux du péché lui-même. On voit comme ça qu'il faut des situations qui semblent s'arranger à force de diplomatie humaine. Mais avec le temps, la difficulté revient parce qu'en réalité, on n'est pas allé à la racine du mal. Et la racine du mal, elle est toujours dans le cœur de l'homme. Et qu'il y a le Christ qui peut changer le cœur de l'homme, notre cœur et le cœur de l'autre. Et ça, ça passera toujours par la croix, c'est-à-dire par notre abandon confiant à la volonté du Père. Et donc, même si c'est pas actuellement, comment dire, la pensée correcte, d'accepter tout ce qui nous arrive. C'est vraiment contraire à l'esprit de l'homme moderne. Je le redis, puisque Dieu le dit, et je relis cette parole du Siracide dans la lumière du Christ, pour dire que l'acceptation, c'est le premier pas vers la victoire. Un premier pas à ne pas raté, si je puis dire, parce que quelquefois, on a le désir d'offrir les choses. Donc, si je puis dire, on passe tout de suite à la vitesse supérieure, on offre. On offre, mais on n'a pas vraiment accepté intérieurement. Et donc, on se trompe un peu soi-même. Que Dieu voit notre bonne volonté, mais il faut aussi qu'on n'est pas au clair quant à ce qui se passe vraiment dans notre cœur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un fond de colère, de révolte, de sentiment d'injustice qu'on ne lui a pas remis. Il faudrait peut-être avoir l'humilité donc de déposer au pied de la croix de Jésus, puisque c'est lui qui a porté nos révoltes, nos sentiments d'injustice, nos colères. Donc, ce premier pas de l'acceptation est en fait un grand pas, un pas décisif. Mais ce n'est pas suffisant face à la réalité du mal, du combat qui est le nôtre dans la vie. Peut-être un combat avec des personnes qui nous blessent, mais c'est peut-être aussi un combat avec nous-mêmes, avec des tendances qui sont en nous. Mais dans ce combat, nous avons besoin de passer donc par l'humble acceptation de ce qui est, une acceptation dont Jésus nous donne lui-même la force. Si nous lui remettons nos résistances, mais il apparaît à travers l'expérience, mais aussi à travers l'Évangile, que Dieu a besoin aussi de notre persévérance. Persévérance dans l'abandon, ainsi dans la fidélité à ses commandements. L'acceptation doit grandir, elle doit, je dirais, s'épanouir en un abandon de plus en plus profond. Précisément à travers ce chemin de la persévérance qui fait dire à Saint-Pierre, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au Créateur fidèle en faisant le bien. Voyez, dans ce remettre leurs âmes au Créateur fidèle, Il y a plus, me semble-t-il, que la simple acceptation de tel ou tel événement. Mais on peut sentir qu'à travers tel événement qui, je dirais, remet en cause nos projets à nous, qui nous, je dirais, met dans une situation où nous ne maîtrisons plus notre vie, on peut sentir qu'en réalité, le Seigneur ne demande pas simplement d'accepter ce qui est, dans l'espérance de pouvoir, avec lui, trouver une issue, mais qui nous demande d'aller jusqu'au bout de notre acte de confiance en lui, c'est-à-dire de lui remettre plus profondément toute notre vie. Remettre notre âme au Créateur fidèle, c'est remettre tout ce qui nous fait vivre. Tous nos espoirs, tous nos projets, tout ce que nous avions élaboré depuis des années, tout ce que nous avions pensé être le bon chemin pour nous, de savoir profiter des épreuves pour vivre ce que Jésus nous demande dans l'Évangile, c'est-à-dire d'accepter de perdre notre vie à cause de lui, pour la retrouver en lui. Alors, c'est l'espoir qui fait vivre, et remettre nos espoirs humain entre les mains de Dieu, en allant jusqu'au bout de ce que ça signifie de renoncement intérieur, eh bien c'est persévérer donc dans cette attitude d'abandon et avec le temps aller jusqu'au bout de l'abandon. Je me souviens en vous parlant d'une réflexion d'une personne qui s'est laissée purifier par Dieu très profondément, qui m'a dit à la fin, il n'y a plus que l'abandon. C'est-à-dire, on peut en arriver à un point où on est tellement dépouillé de soi, de la volonté propre, que réellement, pas dans notre tête, mais réellement, il n'y a plus que l'abandon à Dieu qui nous fasse vivre. Simplement parce que toute forme de recherche d'idéal, de projet, tout ça, on a laissé ça se fondre, être progressivement brisé par Dieu, jusqu'à mettre notre joie uniquement dans l'obéissance à Dieu, quel que soit le chemin par lequel il nous conduit. Évidemment, ça c'est le fruit d'un long, long chemin. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Rien d'autre que d'accomplir la justice, garder les commandements. Ce qui compte, dit saint Paul, c'est de garder les commandements. D'aimer la miséricorde, de pratiquer la charité. Ça aussi, c'est dans le même ordre. La justice et la charité, c'est rester fidèle à la parole de Dieu. Et marcher humblement avec Dieu, c'est précisément accepter humblement ce qui nous arrive, en acceptant que les chemins de Dieu ne soient pas les nôtres. Si nous étions sages, nous nous contenterions de suivre ce programme, rien d'autre que aimer la justice, en vivant davantage dans le moment présent, pratiquer la charité autant que nous en avons l'occasion, et de marcher humblement, de nous laisser conduire, en étant sûr que par notre abandon et notre fidélité au commandement, eh bien, nous n'avons rien à craindre des puissances du mal, mais que nous pouvons sortir victorieux de toute épreuve. Dans ce chemin d'abandon que le Christ nous invite à vivre à sa suite, il faut toujours nous remettre dans la perspective de la rédemption. En définitive, Jésus a vécu l'abandon total sur la croix pour seulement nous libérer du péché, mais nous introduire dans la vie éternelle. Et donc, vivre le combat de la foi, c'est vivre un combat qui est tout entier tourné vers le seul vrai but qui est le salut éternel. Salut éternel et intégral, comme vient de dire Benoît XVI, de l'homme. Non seulement ce ne sont pas nos projets à nous qui sont en jeu, ce n'est pas non plus simplement notre vocation, les contours de notre vocation sur Terre, ce que nous allons faire, notre mission particulière, mais en définitive, c'est le salut éternel. Et c'est la seule chose que Dieu veuille à tout prix. Donc si nous nous laissons pénétrer par cette pensée, que Dieu veut à tout prix le salut de nos âmes, pour dire les choses de manière plus traditionnelle, eh bien nous pouvons peut-être arriver à accepter que ces chemins ne soient effectivement pas les nôtres, puisque les nôtres sont des chemins que nous concevons sans avoir cette perception du but ultime qui est le salut éternel. Si les chemins de Dieu sont aussi élevés au-dessus des nôtres que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est parce que, en définitive, ces chemins sont des chemins vers la vie éternelle. Nous ne pouvons pas concevoir humainement ce qu'est la vie éternelle. Et donc, nos projets humains, ils sont toujours trop courts. On ne peut pas vivre sans espoir, sans petits espoirs, et donc on ne cesse pas d'en faire, mais il faut avoir la sagesse de penser que c'est trop petit tout ça, que Dieu voit plus grand et plus loin. Disons, je dis, on ne peut pas s'empêcher d'en faire. Disons qu'il y a un minimum de choses que l'on est amené à prévoir normalement, qui font partie de la condition humaine. Mais on pourrait s'empêcher d'en faire beaucoup, hein, qui ne sont vraiment pas nécessaires à vue humaine, enfin au nom de la prudence humaine, mais que nous faisons quand même parce que nous avons horreur du vide. Donc si nous réfléchissons au fait que les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres, ne sont jamais les nôtres, cette confiance et cet abandon que Dieu nous demande dans les circonstances, dans les épreuves de la vie, en fait, elle prend toujours une certaine part d'incompréhension. L'expression ici traditionnelle, c'est la confiance aveugle, en référence à la parole de Jésus, bienheureux ceux qui croient sans voir. Plus Dieu nous traite comme ses amis, et plus il nous offre la possibilité de croire sans voir, puisque c'est une béatitude. Et donc, plus il laisse ses desseins dans une sorte d'obscurité. Autrement dit, d'avoir des grandes lumières sur notre avenir, ce n'est pas signe que nous soyons proches de Dieu. C'est plutôt signe que nous sommes comme des petits enfants qui n'ont pas la force d'aller jusqu'au bout de la foi et qui ont besoin de sucreries. Le problème des lumières que Dieu peut nous donner sur notre vocation, sur notre avenir, c'est que nous sommes tellement avides d'avoir une sécurité que nous ne les gardons pas telles qu'elles sont, nous les interprétons à notre manière, et finalement, souvent des sortes de prophéties, comme peut y en avoir dans le renouveau charismatique, des paroles qui sont dites pour, je dirais, réconforter la personne que le Seigneur donne une certaine lumière sur ce qu'elle est appelée à vivre. Tout ça, souvent, à cause de notre peu de foi, dévie en toutes sortes d'imagination qui fait qu'on précise des choses qui ne demandent pas à être précisées. Le mieux, c'est de comprendre que de marcher sans voir est beaucoup plus sûr que de marcher en croyant voir. Que se marcher sans voir, c'est-à-dire sans comprendre, même si c'est très dur à la nature humaine, en réalité, ça peut être plus reposant que de marcher en cherchant à voir ce que Dieu ne veut pas nous montrer. Il y a un moment où le Seigneur commence à nous faire comprendre que nous n'avons pas à chercher à comprendre. Évidemment, c'est aussi le fruit d'un chemin lequel nous finissons par aimer vivre dans une certaine obscurité par rapport à nous-mêmes. Qu'au fond, la question n'est pas de savoir ce que nous allons devenir, mais de savoir que nous sommes bien dans la main de Dieu. Et lui, il fait ce qu'il veut. Ça rejoint ce que je vous disais sur cette personne qui disait qu'il n'avait plus d'objectif, plus de motivation, si ce n'est qu'il restait que l'abandon. Il avait l'image d'un chemin qui arrivait à une grande pancarte où il y avait marqué « Ici, il n'y a plus que l'abandon ». Mais ça rejoint la petite Thérèse qui disait que sa seule boussole, c'était l'abandon. Et je précise ici que cet abandon trouve sa perfection précisément autant qu'il est un abandon aussi au niveau de notre intelligence, c'est-à-dire que nous abandonnons la volonté de vouloir comprendre, de vouloir saisir quelque chose. Laissons le Seigneur nous éclairer comme il le veut, et il nous éclairera d'autant mieux que nous n'aurons pas cherché nous-mêmes à faire la lumière. Père Thomas Philippe aimait faire remarquer que les étoiles brillent dans la nuit. C'est-à-dire les vraies lumières de Dieu, elles sont données dans l'obscurité de la foi. Quand on passe son temps à se créer soi-même des petites lumières artificielles, on risque de ne pas être capable de capter les vraies lumières. Je vous lis la prière d'Edith Stein, Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur les chemins qui sont les tiens. Je ne veux pas savoir où tu me conduis. Ne suis-je pas ton enfant? Tu es le Père de la sagesse et aussi mon Père. Même si tu me conduis la nuit, tu me conduis vers toi. Seigneur, laisse arriver ce que tu veux. Je suis prête, même si jamais tu ne me rassasies en cette vie. Tu es le Seigneur du temps, fais tout selon les plans de ta sagesse. Quand doucement tu appelles au sacrifice, aide-moi, oui, à l'accomplir. Laisse-moi dépasser totalement mon petit moi pour que, morte à moi-même, je ne vive plus que pour toi. La purification de notre besoin de comprendre est encore relève d'une purification de notre besoin de maîtriser encore quelque part notre vie. Et briser cette volonté de maîtriser, c'est vraiment une mort à soi. Aller jusqu'au bout, comme on dit maintenant, du lâcher-prise, mais c'est un lâcher-prise je dirais, se vit totalement à l'intérieur d'une confiance totale qui trouve sa joie à faire confiance sans voir. Parce que c'est le plus beau sacrifice que nous puissions offrir à Dieu. C'est la dernière béatitude, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est aussi le chemin par lequel Dieu a choisi de conduire la reine des anges, la Vierge Marie, comme nous montre l'évangile de Saint Luc. Préciser que ses parents ne comprirent pas ce que Jésus venait de leur dire au moment du recouvrement au temple. En vous disant ça, je repense au parcours qu'a fait Jean-Paul II. Fait qu'il ait finalement dû accepter une diminution de plus en plus grande de sa capacité à exercer sa charge au niveau de l'action concrète, de se retrouver en chaise roulante, finalement de se retrouver muet. Dieu leur a éprouvé jusqu'au bout, à travers des événements qui, s'il avait cherché à comprendre humainement, il n'aurait pas pu tenir comme il a tenu. Lorsque ce qu'il a aidé, c'est ce sens qu'il avait de la foi, de la confiance, à l'école de Marie. Qui fait qu'il a pu tenir bon dans le moment présent, acceptant que les voies de Dieu ne soient pas les siennes. L'âme comblée d'affliction, celui qui chemine courbé et sans force, dit Baruch, les yeux défaillants. Et l'âme affamée, voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur. Il y a l'image de la faiblesse, mais aussi les yeux défaillants, c'est l'intelligence qui n'a plus rien à quoi s'accrocher. Ça en étant conscient que Dieu, en même temps, il connaît notre faiblesse humaine, et donc les lumières dont nous avons vraiment besoin pour tenir, il nous les donne. Le point capital, c'est de comprendre que croire, ça ne signifie pas comprendre. que Dieu peut vraiment vouloir nous garder pendant un temps dans une certaine obscurité. Il faut pouvoir l'accepter aussi. Et tout cela, vous voyez, nous ramène à la profondeur de notre foi en la Providence. Je veux dire que actuellement, ce qui manque beaucoup, c'est le sens de la présence, de l'omniprésence et de la toute-puissance divine qui fait que, de fait, on puisse plus spontanément recevoir les choses de la main de Dieu avec une confiance aveugle, parce que dans la certitude qu'en définitive, c'est lui qui conduit nos vies. Et je pense que actuellement, si beaucoup de personnes ont du mal à avancer dans une. À se laisser vraiment conduire par Dieu et qu'elles rendent leur vie bien compliquée, allant de faux espoirs en faux espoirs, ou alors passant des années à poursuivre des chimères, se faire des films, comme on dit maintenant. Eh bien, c'est en définitive parce qu'elles ont perdu ce sens de la providence divine. Si j'en veux dire, il est temps de retrouver le sens de Dieu. Le Nocèse, dans un grand discours, je crois, qui s'adressait à la curie, a eu cette expression par rapport au monde sécularisé. Il a eu cette expression « remettre Dieu en jeu ». Tout nous pousse dans le monde à vivre dans la pratique comme si Dieu n'existait pas en réalité. C'est-à-dire en continuant à compter sur nos projets, sur notre capacité d'agir, en faisant appel à Dieu, évidemment, pour qu'il nous aide. Mais encore une fois, ce n'est pas ça la confiance totale que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas de vivre devant un Dieu pour qu'il nous aide à mener notre vie, mais c'est réellement de le laisser mener la nôtre. Et ça, même en tout. Ici, je vous rappelle le catéchisme, parce que ce sont des vérités que nous ne prêchons pas suffisamment. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. C'est le numéro 303 du catéchisme. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, comme dit le livre de la sagesse. Ou encore, Dieu agit en tout agir de ses créatures. Elle est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Nous n'aurons jamais une vision trop grande de la toute-puissance de Dieu. Disait la petite Thérèse, nous n'aurons jamais trop confiance en Dieu. ne pouvons pas du tout imaginer à quel point Dieu est tout-puissant. Ça dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. L'Église, en même temps qu'elle prend au sérieux le témoignage des Écritures, qui ne cesse de magnifier la toute-puissance divine, nous dit aussi que Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature. Et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Le catéchisme cite saint Augustin, car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Et si nous réfléchissons à ces affirmations qui sont celles de la foi, nous pouvons comprendre qu'elles ne s'éclairent pleinement que dans la lumière du mystère de la rédemption. Ce Dieu tout-puissant et qui est en même temps infiniment respectueux de la liberté humaine parce qu'il est amour, ce Dieu que l'amour ne s'impose pas, ce Dieu tout-puissant est capable, toujours capable de tourner le mal en bien parce que ce mal, la personne de son Fils, il l'a assumé. Et il l'a vaincu. Donc Jésus peut nous dire, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, ayez confiance. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais cette mystérieuse transformation du mal en bien, elle ne s'opère pas d'une manière magique. Elle s'opère, encore une fois, moyennant la croix. Dieu a payé le prix. Le prix d'une vraie victoire sur le péché qui est dans le cœur de l'homme. Qui est à l'origine de tous les maux qui sont... De tous les maux qui nous blessent vraiment, qui sont liés au mal moral. Et donc, si nous voulons, je dirais, expérimenter cette victoire de l'amour divin sur le mal dans notre vie, il ne s'agit pas simplement de penser comme ça que de toute façon tout tournera bien, mais il s'agit de suivre Jésus, c'est-à-dire de coopérer à cette victoire, précisément en avançant nous-mêmes avec lui sur le chemin de l'abandon et d'une remise totale de notre vie, pour que s'opère réellement cette victoire de l'amour sur le mal, et que le mal puisse être effectivement transformé en bien. Donc, vous voyez, je reviens là-dessus, sur cette pensée qu'on ne peut pas se contenter d'une sorte de foi naïve ou d'attente magique par rapport aux choses. Mais il y a un vrai combat, qui est en définitive le combat de la rédemption, puisque c'est par l'œuvre de la rédemption que Dieu a voulu que sa toute-puissance soit victorieuse du péché. Et donc, attendre de Dieu, voyez, que les choses s'arrangent comme ça, d'une manière miraculeuse. Quand il s'agit de situations qui sont liées au péché, soit au nôtre, soit à ceux de nos proches, attendre de Dieu une transformation comme ça, qui serait comme magique, hein, des situations, sans se décider à suivre vraiment Jésus, ben c'est contradictoire. Alors la victoire peut nous être obtenue par les mérites d'autres personnes qui acceptent de suivre Jésus et qui portent les choses, mais en tout cas, si nous voulons que ce soit notre foi qui soit victorieuse, ça peut être qu'une foi qui se vit à l'imitation de Jésus, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout dans ce chemin, enfin jusqu'au bout, qui persévère dans ce chemin d'abandon, de remise de nous-mêmes, qui fait que finalement, le mal est réellement anéanti. Je dis ça tout en étant conscient que quand nous participons à l'œuvre de la rédemption, en réalité, c'est la grâce de Dieu déjà qui est à l'œuvre en nous, c'est par grâce que le Christ nous associe à son œuvre de grâce. Donc nous revenons à cette attitude première, Jésus augmente notre foi. Jésus augmente, donne-nous la grâce de l'abandon. Jésus fait nous comprendre la valeur de cette acceptation humble des épreuves et de notre persévérance dans l'amour au milieu d'un monde qui refuse l'amour.